Alors bonjour à tous. Alors oui, cela ne vous a pas échappé. Bon, c'est la période de l'Avent. Et c'est vrai, c'est le deuxième dimanche. Alors moi, j'ignorais que c'était. On se souvenait particulièrement d'Abraham, ce second dimanche. Merci à Thibault. Et. Merci Pierrick, alors. Et c'est vrai que cette période, c'est vraiment l'occasion de s'immerger peu à peu dans cette période de Noël et pour s'approprier vraiment davantage ce message. Et c'est vrai, on est mis progressivement pendant ce mois de décembre, on est mis progressivement sous pression avec tout le flot des sollicitations qu'il y a en cette fin d'année. Et c'est vrai que c'est vraiment apaisant de se retrouver là avec vous et puis de s'approprier vraiment tout à nouveau ce message de Noël. Et de voir vraiment à partir de là tout ce que cela a déclenché. Alors déclenché pour nous, c'est une chose, mais déclenché aussi pour l'humanité. Et puis ce matin, Philippe, dans le monde de prière, a rappelé qu'il y avait un moment, un avant et un après. Et vraiment, j'ai envie ce matin de me mettre, d'aborder un peu ce sujet de l'avant. De tout ce qui s'est passé avant, et de m'attarder vraiment sur cette période qui ont précédé la venue de Christ. Et vraiment en contemplant vraiment plus spécifiquement la grâce de Dieu au cours de ces siècles. Alors vraiment c'est l'occasion de pouvoir continuer aussi ce moment d'adoration, parce qu'on terminera ce moment par le culte de la Sainte-Cène, et on aura encore l'occasion. Et d'ailleurs à ce sujet j'ai oublié de solliciter 2-3 personnes pour la distribution, donc je fais un appel pour tout à l'heure. Merci en tous les cas de participer aussi à ce moment. Et vraiment pour pouvoir voir cette grâce de Dieu, avant tout il y a toujours un élément déclencheur qui a poussé Dieu à prendre les choses en main sur cette terre. Et pourtant il était bien prévu dans le plan de Dieu que les hommes prennent possession de la terre. Il est dit même qu'ils devaient l'assujettir, plus exactement, et puis jusqu'à dominer les autres espèces. Et c'était bien là la mission qui incombait aux hommes sur cette terre. Et avec la sagesse que Dieu a donnée aux hommes, tout était prévu pour que l'ordre établi puisse être respecté et pour que les hommes et la nature vivent en bonne harmonie. Et puis, bien des années après, le constat de notre Dieu envers la situation des hommes est tout autre. Dans sa grande miséricorde, Dieu ose jeter un regard sur la terre. Et puis un beau jour, il fait le constat suivant. Le verset de Psaume 14, verset 1, par la bouche de David. « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et puis, il y a un autre passage que j'ai trouvé dans Ecclésiaste 7, verset 20, qui est tout aussi clair. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Donc, dans ces conditions difficiles et dans l'impasse qu'il est avec les hommes, Dieu n'a pas d'autre choix que de réagir et de prendre les choses en main. Déborah m'a raconté qu'à son travail à Ferney, dès qu'elle a un bug sur son ordinateur, elle appelle un informaticien qui est à Bourg-en-Bresse, et de son poste, c'est lui qui prend la main sur son poste et qui résout comme ça le problème à distance. Et puis elle peut voir la souris qui se balade, enfin bref, et de voir que les choses comme ça sont réglées. Alors est-ce que ce n'est pas un peu identique avec Dieu? À chaque fois que la situation des hommes a atteint un point critique, Dieu est intervenu de façon extraordinaire pour modifier ses plans. Et avant de revenir sur le contexte de la venue de notre Seigneur, je vous propose de faire un rapide survol de toutes les informations, de toutes les interventions fermes de Dieu et de revoir avec quelle patience et quelle grâce il réagit. Et moi, ce qui me frappe le plus, et je crois que c'est fait pour ça d'ailleurs, pour pour vraiment que ça nous frappe, pour qu'on s'en souvienne, c'est qu'à chacune de ces interventions, Dieu laisse un signe physique, visible. Et la première modification du plan de Dieu intervient dans le jardin d'Éden, dès Genèse 3, à la suite de la chute. Et là, il n'a pas d'autre solution que de tenir sa promesse. Il avait promis que si Adam ou Ève mangeaient du fruit défendu, ils mourraient. Et puis là, c'est ce qui se passe. Le chemin de la vie, de l'arbre de la vie, est fermé. Mais qu'est-ce qui se passe finalement s'ils mouraient de suite? Et là, Dieu témoigne encore une fois de plus de sa grâce immense. Dieu laisse finalement un long sursis à la vie d'Adam et Ève. Mais malgré tout, il laisse des signes physiques à toute leur descendance. Il y a le serpent d'abord qui marche sur son ventre. Ouais. C'est surprenant. La femme qui doit s'attendre à des douleurs, et puis l'homme qui doit travailler dur pour se nourrir. Je continue un peu plus tard, les hommes ont bien pris possession de la terre, mais comme nous le lisons dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 8, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais heureusement, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Là aussi, imaginez-vous comment Dieu est affligé de voir les hommes s'orienter mais constamment vers le mal. Et donc, il contrecarre totalement ses plans et est prêt à supprimer les hommes sur la terre. Mais malgré tout, nous voyons par ces versets la peine de son cœur et combien il est difficile pour lui de supprimer l'homme qu'il a créé. Moi, je trouve que c'est beau de voir ça. C'est vrai, on a peut-être tendance à croire que on va humaniser un peu Dieu. Ah oui, Dieu, il a des sentiments, il comprend. Mais enfin, c'est peut-être nous qui sommes faits aussi à l'image de Dieu. Mais voilà comment Dieu réagit. Et finalement, dans sa grâce immense, waouh, il voit Noé. Il voit un homme juste et intègre. Et l'espoir peut ainsi renaître. Ouf, une personne juste. Et Dieu, de suite, contrecarre ses plans, change tout. Et à nouveau, reprend espoir dans l'homme. Et donc arrive le déluge. Heureusement, il y a l'arche qui tient bon. La vie peut reprendre. Et là encore, vraiment, Dieu nous laisse un signe physique, l'arc-en-ciel, pour se rappeler qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Vous vous rappelez ça, que chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Vous voyez la grâce de Dieu dans cet arc-en-ciel? Encore un peu plus tard, à nouveau, les hommes se multiplient, mais ont la ferme intention de ne plus être dispersés. Ça suffit. Plus être dispersés sur la face de la terre. On se choisit un lieu et on veut se faire un nom. Et donc, ils ont l'idée de construire la tour de Babel. Là encore, en réaction à ce désir d'indépendance des hommes, Dieu intervient pour modifier ses plans et disperse les hommes en multipliant les langues. Et ça aussi, c'est encore un nouveau signe physique de son intervention qui nous est laissé en souvenir. À la suite de cette énième intervention, Dieu semble changer de stratégie et décide de faire une alliance avec Abraham. Tiens, merci Thibault. Enfin, merci au Seigneur. Abraham et toute sa descendance. Et puis oui, Abraham doit quitter ainsi son pays, doit quitter sa famille, pour s'établir en Canaan. Et ainsi, cette famille, peu à peu, devient le peuple d'Israël. Et Dieu se choisit ce peuple pour qu'il lui rende un culte. Et à cette occasion, Dieu fait une alliance. Et puis là, il laisse encore à nouveau un signe physique. Bon, il n'est que sur les hommes, ça c'est la circoncision. pas totalement visible pour tout le monde. Mais par cette circoncision, Dieu devient ainsi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et peu à peu, le peuple s'identifie à une culture telle que Dieu l'a voulu. C'est le but de la loi telle qu'elle a été donnée à Moïse. Cette loi qui était bonne, qui est bonne par ailleurs, devait être respectée et ainsi être assimilée de façon naturelle et cultivée comme ça de génération en génération. Cette loi devait finalement instaurer une culture, une nouvelle culture avec un ordre de vie qui devait stabiliser un peu ce peuple. Donc il y a une arche de l'Alliance qui a même été conçue pour sceller cette alliance et pour donner à nouveau un signe physique de la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Et malgré toute cette dynamique qui est mise en œuvre, des sacrifices en quantité hallucinante, la relation de Dieu entre Dieu et son peuple, eh bien, elle n'est pas satisfaisante. Dieu faisant preuve de grâce une fois de plus, et dans un souci vraiment lui de respecter ses engagements, respecter ses promesses, respecter cette alliance, il suscite régulièrement des prophètes dans le but de réveiller son peuple, de réactiver toujours plus cette alliance. Mais du côté des hommes, la dynamique n'est plus la même. Les hommes préférant bien souvent les cultures et les cultes étrangers. Dans ce contexte, que faire? Dieu semble vraiment se trouver là dans une impasse. Et le prophète Ésaïe montre bien au début de son livre quel dilemme notre Dieu a par rapport à son peuple. Je vais vous en faire un bref résumé vraiment de cette situation, mais je vous conseille vraiment de relire les 7 premiers chapitres. Du livre d'Ésaïe. Il vous aurait peut-être des similitudes par rapport à vos vies et à votre relation avec Dieu. Et donc au premier chapitre, Dieu dénonce les péchés. Et il dénonce l'ingratitude du peuple et puis il les invite à se purifier. Bon, ça c'est vraiment toujours le cursus normal qui va revenir d'ailleurs régulièrement. Et puis au chapitre 2, dans un premier temps, Dieu est plus optimiste. On revoit ça, hein. Et voilà, il voit un bon côté des choses et puis de suite, il est plus optimiste. Et il voit donc la gloire future de Jérusalem. Ouais, chouette. Mais rapidement, il n'aperçoit à nouveau plus que la corruption de son peuple, parce que ça continue, ça éclate à ses yeux, ne supportant pas le péché, haïssant vraiment ce péché, ça lui remonte à la vue. Et donc dans cette situation, Dieu n'a qu'une seule idée en tête, juger, et encore juger. Et au chapitre 4, enfin et de nouveau, Dieu aborde le salut. Il aborde aussi la purification des péchés. Et puis là, au chapitre 5, il y a une séquence, moi, que j'aime bien, un peu émotion, nostalgie, avec la comparaison d'Israël avec la vigne du Seigneur, dans laquelle il avait espoir. Et il a espoir toujours qu'elle produirait de bons raisins. Et puis patatrac, badaboum, à nouveau toute une longue liste de péchés et de châtiments en perspective. Vraiment, vous lisez ces textes, ben vous comprenez le désarroi de Dieu à l'égard de son peuple, bien sûr, mais aussi de l'humanité entière. D'un côté, nous discernons vraiment son horreur pour tout ce qui est péché, et de notre côté, il y a sa grâce et sa miséricorde en faveur des hommes. Et donc on arrive au chapitre 6, et nous sommes là devant cette interrogation de Dieu, juste l'affiche, Ésaïe 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » Une fois encore devant la misère des hommes, le cœur de Dieu est enclin à la grâce. Et la réponse prophétique d'Ésaïe, me voici, envoie-moi, à la question de Dieu, ben, n'est rien moins que la réponse de son Fils qui accepte de s'approcher de nous et de prendre une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Alors oui, nous sommes dans cette période de l'Avent et c'est l'occasion de voir, avant la naissance de Jésus, comment tout se met en place pour que le Messie naisse vraiment le plus simplement possible dans une crèche. Et justement, cette crèche aussi est un signe physique de l'intervention de Dieu. Souvenez-vous, la parole que les anges donnent aux bergers, vous verrez, le signe, c'est que vous verrez un enfant dans une crèche. Et enfin, pour terminer cette lecture rapide du prophète Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et là, c'est rare quand finalement c'est, peut-être, je n'ai pas tout contrôlé, je n'ai pas eu le temps, mais c'est vraiment la première fois que là, Dieu annonce un signe. Il va intervenir, attention, vous ne savez pas quand, mais il va intervenir. Et les signes qu'il va intervenir, eh bien, il y a la Vierge qui sera enceinte. Et donc, une nouvelle fois, Dieu se prépare à intervenir. Et quels sont ceux qui sauront finalement reconnaître son intervention? Comme nous l'avons vu lors de la pièce de Noël, de la fête, et vraiment contrairement aux sentiments de Raymond et Germaine, la foule qui était invitée à reconnaître le signe de la plus grande intervention de Dieu, elle n'est pas au rendez-vous. Et pas finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et heureusement, il y avait une étoile. Et les anges qui se sont mis de la partie. Mais du côté de l'humanité, des hommes, il y avait seulement 3 mages. Il y avait des bergers. Un peu plus tard, il y avait Siméon, Anne, et puis quelques autres. Mais la foule attendue, la foule qui était prévenue. Et là aussi, ça nous interpelle. Et tout ceci présageait finalement de l'accueil que les hommes lui ont fait plus tard, ont fait au Seigneur plus tard, lorsque notre Seigneur a commencé son ministère. Ainsi, une autre prophétie d'Ésaïe se vérifiait, chapitre 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors bien sûr, c'était tout écrit, c'était comme ça que ça devait se passer. Ben oui, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, les serviteurs de Dieu de l'époque, n'auraient-ils pas pu s'en douter ? Et discerner ces signes. Mais comme John l'a soulevé dimanche, cette venue était une folie pour les hommes. Et les Israélites, une nouvelle fois, dans leur grande majorité, n'ont pas cru à cette promesse de salut. Et comme d'habitude, la grâce de Dieu dépasse notre entendement. Pof, qu'importe son peuple. Désormais, son royaume est ouvert à tous ceux, quels qu'ils soient, qui croient en ses promesses, qui mettent leur confiance en Dieu, qui croient en ses promesses et en ses signes. Et c'est Jésus lui-même en personne qui révèle ce nouveau plan du salut. Lors du récit des deux paraboles de Matthieu 21 au sujet de la vigne, et donc bien sûr qui font référence à Ésaïe 25, et celle du festin des noces de Matthieu 22. Ces 3 paraboles ont un point commun, le salut offert à tous ceux qui ne le méritent pas et qui est refusé à tous ceux qui se croient justes. Tout à l'envers. Moi, je vous lis les versets clés de chacune de ces paraboles. Matthieu 21, verset 31, au sujet de la parabole des 2 fils qui sont dans la vigne. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, donc les pécheurs et les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Dans la parabole des vignerons, Matthieu 21, verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné en une nation qui en rendra les fruits. Et puis Matthieu 22, pour la parabole du festin des noces, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. » Alors nous tous ici, je crois, qui étions étrangers à toutes ces promesses, nous sommes, comme tous les pécheurs, et puis j'oserais aussi les prostituées, conviés dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est par excellence le lieu où la grâce de Dieu surpasse vraiment toute autre considération. Bien entendu, si nous sommes là ce matin, c'est que cette grâce nous touche et que nous voulons rendre cette grâce à Dieu. Nous voulons remercier Dieu. Nous sommes conscients de notre faiblesse parce qu'avec, c'est vrai, le péché qui nous enveloppe si aisément, nous sommes surtout conscients que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, nous sommes une nouvelle fois tous invités ce matin avec tous ceux qui sont trouvés dans les carrefours à nous souvenir de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Nous voulons être tous ensemble cette vigne qui produit de bons raisins ou cette nation qui rend ses fruits. Et pour être ce peuple d'adorateurs, notre Seigneur nous donne le Saint-Esprit, la pensée de Dieu dans notre cœur. Et ça aussi, ce n'est pas un signe majeur de l'intervention de Dieu? Alors on pourrait dire que ce n'est pas un signe physique. Mais oui, ça doit être un signe physique. Ce Saint-Esprit, il ne va pas rester là dans notre cœur et puis au chaud. Non, ce signe physique, c'est que ce Saint-Esprit manifeste ses fruits, son fruit. Et qu'à travers nos vies, nous soyons nous-mêmes des témoins et des signes physiques de l'intervention de Dieu auprès des hommes. Et c'est vrai que pour reprendre un peu une autre prophétie d'Ézéchiel, nos cœurs, nos corps ont subi un changement. Souvenez-vous, puis peut-être ça vous arrive encore, on a un cœur de pierre, c'est comme ça qu'Ézéchiel nous a vus. Mais ce cœur de pierre a été ôté pour être remplacé par un cœur de chair, et un cœur de chair sensible vraiment à cette pensée du Saint-Esprit. Alors les Juifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais demandaient un signe au temps du Seigneur. Ils voulaient voir un signe, ils étaient bien conscients de l'importance de ces signes. Parce que bien sûr, ils n'avaient pas vu le signe de la Vierge enceinte. Mais Dieu leur refuse tout autre signe. En revanche, dans l'intimité avec ses disciples, notre Seigneur leur laisse à nouveau un signe. C'est vrai que ça va être le moment de partager ce pain et ce vin. Et c'est ce signe-là que je voudrais aborder maintenant. Luc 22, verset 17. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. » Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qui leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. » Depuis le jour de notre rencontre avec notre Sauveur, notre chemin est jalonné de signes, de miracles qui témoignent de l'intervention de Dieu dans nos vies. Et même si la Sainte Cène est le moment où nous nous souvenons de ce signe, de la croix, où notre Sauveur a accepté de mourir pour nous, nous nous souvenons aussi de chacune de ces interventions dans nos vies. Voilà, l'heure est venue de nous souvenir particulièrement de notre Sauveur. Nous avons cet immense honneur de répondre à son appel et de pouvoir réaliser encore aujourd'hui ce que Christ avait vivement désiré, c'est-à-dire de partager ce pain et ce vin. Je crois que, comme tout ce qu'il nous a laissé sur cette terre d'ailleurs, que ce qu'il nous demande vraiment n'est pas trop compliqué. Quand on compare ce que les Israélites avaient à faire pour se purifier, ils avaient à élever vraiment des animaux purs, ils devaient être sans tache. Il fallait ensuite se déplacer à la tente d'assignation ou bien au temple pour sacrifier ces animaux. Une fois mis à mort, pour certains sacrifices, les épaules des agneaux devaient être tournoyées, le sang d'animaux coulé. Chaque jour, il y avait deux holocaustes, le matin et le soir. Les sacrificateurs faisaient brûler l'agneau de la farine, avec de l'huile, du vin, et en se consumant, le tout exhalait une odeur apaisante pour l'Éternel. Et malgré tous ces efforts déployés par le peuple d'Israël, Dieu n'a pas été satisfait parce que le péché prédominait toujours. Il dit même plusieurs fois qu'il ne prenait pas plaisir à ses sacrifices. Alors il fallait un sacrifice parfait, un agneau pur, sans tache, qui avait commis aucun péché. Seul le Fils de Dieu pouvait être celui-ci. Il a dû accepter d'être le serviteur qui allait être considéré comme péché lui-même. Alors qu'il était parfait, il a été vu comme étant péché. Il a connu l'abandon de Dieu, son Père, pendant son agonie, et puis après, pendant les 3 jours, avant sa résurrection, parce que Dieu ne pouvait pas voir ce péché. Il fallait ce sacrifice unique, accompagné de ses souffrances immenses, pour que nous ayons accès auprès du Père de façon parfaite. Est-ce que vous imaginez vraiment le prix que Jésus a payé en comparaison de ce qu'ont coûté tous les sacrifices antérieurs? Vous imaginez des siècles de, je ne sais pas, les nombres de litres de sang qui ont coulé? Ça ne suffisait pas. Vous imaginez ce prix payé? En retour, Jésus nous demande donc simplement, entre autres, de nous souvenir de lui, jusqu'à ce qu'il revienne en partageant le pain qui symbolise son corps, témoin des souffrances qu'il a endurées à la croix. Jusqu'à présent, les seules traces qu'il a ramenées de son passage au milieu des hommes, ce sont les marques des clous et la lance de son côté. Heureusement, ce ne sera pas les seules traces. Nous serons aussi, nous, les signes quand il viendra nous chercher. Mais pour le moment, ce sont les seules traces qu'il a ramenées dans le ciel. Et en partageant le vin qui symbolise son sang versé, il est pour nous un signe que nous sommes pardonnés de tout péché. C'est pourquoi Jésus insiste sur le fait de partager ce pain et cette coupe. Matthieu dit même « buvez-en tous ». Et si nous sommes tous invités à partager ce pain et ce vin à la demande de notre Seigneur, il n'en demeure pas moins que nous devons réaliser chacun individuellement ce que ces signes représentent. Nous savons que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ainsi ils prennent et participent à ce repas. Donc notre responsabilité est de s'examiner afin de ne pas être coupable envers le corps et le sang du Seigneur, nous dit la parole. Nous avons réalisé individuellement que son corps a souffert à la place du nôtre en supportant le châtiment de nos péchés. Et nous devons réaliser que son sang a coulé pour que nous soyons lavés. Alors je crois que nous réalisons ça quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme notre sauveur. Et lorsque nous sommes touchés par la grâce de Dieu et par le prix immense du sacrifice de Christ. Mais ces signes, ce pain, cette coupe, sont là vraiment pour nous rappeler vraiment ce que cela est. De rappeler ce signe qui nous est donné. Chaque fois qu'on est là tous ensemble, nous nous souvenons de ce que cela a été. Et donc l'occasion de célébrer la Sainte Cène permet de se rappeler vraiment quelle est l'importance d'être chacun individuellement en règle avec Dieu. Et puis ce moment aussi, cette coupe, ce pain, nous montre aussi cette communion, notre unité en tant qu'enfant. Et il nous est dit de discerner justement ce corps. Et ce corps, au-delà de nos personnes, de discerner ce corps pour que nous puissions réaliser vraiment quelle est la communion et l'unité indestructible qu'il y a dans son Église. Alors voilà, je demanderai à 2-3 personnes de venir partager, de distribuer, d'être ces liens à cette communion, ce maillon qui fait que nous puissions vivre réellement, pratiquement, par ces signes, cette unité, cette communion qui nous habite. Et nous prierons vraiment, nous rendons grâce pour ces signes et tout le long du parcours que Dieu a eu avec nous, de se souvenir vraiment de sa fidélité, de cette confiance aussi que nous pouvons lui donner. Merci, c'est vrai, de tout ce que tu as accompli. C'est vrai que nous voulons vraiment te rendre grâce. Et c'est vrai que nous voulons nous souvenir, nous voulons continuer à rentrer chez nous dans cet esprit d'adoration, de reconnaissance, quand on voit ta fidélité. Et c'est vrai que nous sommes désormais cette vigne, ta vigne. Et c'est vrai que tu as tout préparé, tu prépares tout pour que maintenant nous puissions porter ces fruits, que nous puissions produire ces bons raisins, Seigneur. Et c'est vrai que c'est ce que nous voulons faire, nous voulons te rendre le fruit qui t'appartient. Et c'est l'occasion aussi de te rendre grâce pour tout l'argent, tout ce que tu nous donnes. Et c'est vrai aussi de bénir cet argent que tu nous donnes et que nous pouvons aussi te redonner en partie. Merci pour tout ce plaisir, tout ce que tu nous donnes dans notre pays ici, la liberté et le luxe de pouvoir partager. Et Seigneur, nous voulons à nouveau que tu te demandes que tu bénisses vraiment cet argent que nous donnons à la collecte. Fais qu'il soit utilisé, c'est vrai, de façon sage et saine. Et on te remet tous les projets dans notre Église. Et c'est vrai que là aussi, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te rendre grâce vraiment de ce que tu as fait pour chacun de nous dans nos vies, de ces signes qui témoignent de ta présence chaque jour à côté de nous. Sois loué, honoré par nos vies et nos cœurs. Amen.
Ces temps d'avant sont des temps forts, chaleureux. Merci à chacun d'avoir participé à ce culte par vos chants, par vos prières, par votre présence. Je crois qu'on a besoin aussi de se retrouver devant notre Dieu et avec ce repas partagé, c'est aussi un moyen de faire un témoignage fort aussi pour notre monde. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant la vie de l'Église, concernant les activités. Je sais pas. Voilà, c'est super, ça se met tout à jour tout seul, ça. C'est super. Lundi 14h, Femme Club. Lundi 19h30, Conseil d'Anciens. Mercredi 15h, Goûter de Noël des aînés. On se réjouit pour les aînés de ce temps aussi, partagé ensemble ici. Vraiment, demander que Dieu les bénisse aussi pendant ce temps. 20h30, Chorale, répète. Continue. Jeudi à 18h, il y a la pastorale du Pays de Gex, donc. Et puis le soir, les cellules. Les cellules sont ainsi faites cette semaine. À Gex, la cellule de Gex se retrouvera chez Anne-Lise, à Bois-Chaton. La cellule de Prévesin chez Manuel et Rebecca. Et la cellule de Collonges chez Pierre et Déborah. Samedi. L'heure, samedi. Oh, c'est écrit, c'est super. 20h30. Alors, c'est le culte du groupe de jeunes, le culte des jeunes, pas le culte du groupe de jeunes, mais le culte des jeunes, avec cette explosion de louanges, et c'est ouvert à tous, c'est vraiment ouvert à tous. On vous invite aussi à venir participer à ce temps, et ça sera une autre forme aussi peut-être pour vous, mais venez participer à ce temps. Samedi, 20h30, ici. Dimanche, 9h30, café, thé, super, c'est aussi un temps super. Je vous invite à venir participer aussi à ce petit temps de café avant le culte. Et puis à 10h30, ici, notre culte. Est-ce que pour la semaine, j'ai oublié quelque chose? Les ados. Les ados. Quand? Comment? Où?
Samedi à 13h30,
ici. Merci, Thomas. Les ados, donc. Une autre annonce concernant des activités. Vous trouvez des papillons à la sortie pour un temps qui se passe à Genève, qui a commencé hier, l'appel de Genève, qui est organisé par beaucoup d'églises de Genève, un temps de jeûne, de prière, de louange. Vous avez des papillons et c'est toute cette semaine. Vous pouvez aussi vous joindre aux frères et sœurs de Genève aussi pour célébrer ce temps. J'aimerais vous partager deux annonces. Si vous avez suivi un petit peu sur le site, vous l'avez vu cette semaine déjà, le décès de la sœur de Madeleine, Anna Egli, qui est décédée cette semaine. On veut vraiment penser à Madeleine, à toute sa famille, et que Dieu vous garde et vraiment vous bénisse dans ces temps difficiles, Madeleine. personne souffrante aussi, brillant, a dû faire un aller-retour un petit peu rapide à l'hôpital cette semaine d'urgence pour de nouveau des soucis, il y a de nouveau des examens. Donc on veut vraiment prier pour Brillant et pour Hélène qui passent par une période difficile. Brillant devait avoir le culte ce matin, le message ce matin, bien sûr, c'était pas possible. Et on veut vraiment prier. Je vous dis pas de leur téléphoner parce qu'ils ont demandé plutôt ils ont besoin d'être tranquilles un petit peu, d'être au calme. Si vous avez besoin de nouvelles, mettez-moi un petit mail ou appelez-nous, on vous le donnera volontiers. Voilà, ils n'aiment pas trop être dérangés hein, de ce côté-là. Et puis pensons aussi à Gilberte qui est souffrante aussi. Qui est très affaibli. On veut aussi penser à toutes nos personnes âgées. Il y en a d'autres. Il y a aussi des personnes qui sont là, mais qui souffrent aussi. On va vraiment penser à chacune de nos personnes âgées pendant ce temps de Noël. Et ayons aussi un accueil envers elles. Invitons-les. Prenons du temps avec nos aînés. Merci à chacun. Et puis un petit clin d'œil. Est-ce que vous avez vu ce superbe soleil ? Que vous avez vu comme c'est beau. Si on cherche les merveilles de la nature avec cette neige, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, est-ce que vous avez vu aussi, peut-être, que sur le parking, ça ne glissait pas ? Est-ce que vous avez vu que la rue était toute verglacée, mais que le parking était nickel ? Et ça, on le doit à quelqu'un. Et Charlie, tu vas te lever, parce que tout le monde ne le connaît pas, Charlie. Je voudrais dire que l'Église, elle est faite de tout un tas de personnes. Vous savez, il y a une image dans la Bible où on voit différents vases dans le peuple de Dieu. Il y a des super beaux vases avec plein de pierres précieuses. Puis il y a des vases un peu plus petits, puis il y a des vases d'argile, puis des vases en bois même. Et puis chacun a une utilité. Et Charlie fait partie de ces personnes qui bossent dans l'ombre, mais qui font un tas de trucs. Vous n'avez pas vu qu'il a coupé un arbre, parce qu'il ne manque pas l'arbre, il ne vous manque pas. Mais allez voir comment il l'a coupé. C'est tiré au cordeau, c'est au laser. Hein. Pardon ? Greg était là aussi, mais Greg, il le tenait, lui, là. Voilà, simplement. Voilà. Mais bon, merci, Charlie, pour ce que tu fais. C'est vrai que c'est un privilège d'avoir ce parking qui, toute la semaine, est nickel. Et puis, on va vraiment... Merci, en tout cas, Charlie. Et puis, on aura l'occasion, d'autres fois, de remercier d'autres personnes aussi qui font aussi le nettoyage, qui font aussi d'autres choses. Merci à chacun. Voilà. Oui ? Nancy ? Ou le coupable. On a des noms.
Non, mais pour dire, si vous cherchez vos plats, ils en restent encore en bas, ils sont déposés sur la table de la cuisine.
Voilà, vous avez entendu tous, hein, des plats qui restent depuis le repas de la fête de Noël.
Juste une chose que je crois que tu as omis ou oublié. Le mardi 11 décembre, allumage public de la menorah, donc géante, à la place du Mola. La communauté juive qui organise avec des champs, poissons gratuits, gâteaux, etc. Et mon ami m'a dit, fais le message, s'il te plaît, à tous, nous voulons les bénir et soutenir. Voilà.
Voilà.
Alors, mardi soir...
C'est une illumination, oui, là, c'est quelque chose de spécial qui a lieu mardi, au centre-ville à Genève. Hein.
Voilà.
Voilà, merci. Mais vous le trouverez aussi, je crois, sur le petit papillon.
On va profiter de faire une annonce par rapport à éteignez vos portables, c'est désagréable, le bip-bip-bip, c'est les portables dans les...
Ah.
Alors, j'en profite, mais
vous avez entendu ce petit désagrément dans les blip-blip-blip-blip-blip, ça vient des portables qui sont allumés. Hi, le coupable. Voilà, pensez, c'est bien de les fermer. Je vous invite à vous lever, je vous lirai encore deux versets qui s'adressent à l'Église, qu'elle soit ici ou qu'elle soit autre part. Au début de l'épître de Paul aux Corinthiens, Paul envoie une salutation. Elle dit cette chose suivante. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux, et ça nous concerne, qui en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse.